C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les électeurs néerlandais se prononcent par référendum aujourd'hui pour ou contre un accroissement sensible des moyens de surveillance des services secrets dans le pays. Donc, précision et enjeu dans un instant avec Pierre Benazé. Comment taxer les géants américains du numérique? La question est évoquée lors du Conseil européen demain et la Commission préconise aujourd'hui de taxer à 3% leurs revenus. Explication de Catherine Pétillon. Les Israéliens reconnaissent avoir lancé un raid aérien contre un réacteur nucléaire en Syrie. C'était en 2007. Annonce assez rare, interprétée comme un avertissement adressé à l'Iran. Correspondance avec Marie Semelin. L'actualité en France, ce sera le premier mouvement de grève du printemps. Pouvoir d'achat, statut, salaire, agents publics, cheminots, salariés d'Air France appelés par les syndicats à se mobiliser. On va faire le point sur cette journée avec Bénédicte Robin. Et puis en Conseil des ministres, à l'instant, adoption du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Il doit permettre notamment de sanctionner d'une amende le harcèlement de rue et aussi fixer à 15 ans l'âge du consentement sexuel. L'âge de consentement sexuel, analyse avec Eva Jednak, l'invité de la séquence interview. Anne Fauquemberg reçoit notre consoeur Marie-France Etchegouin. Et puis dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jasbert.
Des innovations, Antoine, bien connues ou des plus inattendues. On va en parler avec notre invité, le journaliste britannique Tim Harford, qui publie au PUF 50 inventions, l'économie mondiale en 50 inventions. Parce qu'à travers ces innovations, il va nous raconter comment elles se sont implantées dans nos vies, mais également comment elles peuvent éclairer les rouages du système économique qui est le nôtre aujourd'hui. Il sera avec nous dans la deuxième et dernière partie de la Grande Table.
Un État peut-il être autorisé à surveiller une région entière ou la totalité même d'un réseau de communication, à conserver ces données collectées pendant 3 ans, à les partager aussi avec d'autres services de renseignement alliés? Question posée aujourd'hui aux électeurs néerlandais. Référendum organisé en marge d'élections municipales par lequel donc nous commençons. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
On est en plein scandale sur le siphonnage de données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook aux États-Unis. Et la question est donc très disputée aux USA aux Pays-Bas, sur ce projet, cette loi donc soumise à référendum. Dites-nous d'abord ce que contient précisément ce texte et d'où il vient.
Il vient d'une mise à jour en fait de la dernière loi qui portait sur la surveillance intérieure et extérieure, une loi de 2002 qui s'appelait la loi Veiligheidsdienst, c'est-à-dire la loi sur la surveillance et le renseignement, une loi qui permettait aux services de renseignement intérieur et extérieur, c'est-à-dire AIVD, MIVD, l'un est le renseignement militaire, c'est-à-dire en quelque sorte l'espionnage, de surveiller les communications sur l'éther, c'est-à-dire sur les ondes radio, les satellites. C'était tout ce qu'ils avaient le droit de faire. Et cette nouvelle loi qui a été mise à jour en 2017, après tout de même une consultation qui a duré 2 ans et qui a imposé la mise en place d'une commission de contrôle, cette nouvelle loi permet de tout surveiller, tout ce qui est sur câble, c'est-à-dire d'intercepter la totalité des communications numériques qui passent par les câbles enterrés, par les fibres optiques. Tout ce qui est sous terre, c'est l'apport majeur de cette nouvelle loi. Et puis le fait aussi que c'est une loi extrêmement large qui permet de tout attraper.
Voilà, effectivement, c'est un seuil sans doute dans le contrôle. Quels sont les arguments échangés pendant cette campagne?
Les arguments, c'est surtout, du point de vue des opposants, l'idée est que cette loi est une loi qui est comme un très grand chalut. C'est d'ailleurs le surnom qu'on a donné à cette loi. On l'a appelé Sleipnet. C'est le nom qui ressemble à Sleipnet, le chalut en néerlandais. On attrape tout, on racle le fond et on peut attraper la totalité des télécommunications sur votre téléphone, votre ordinateur, vos courriels, vos appels Skype, vos réseaux sociaux et même votre télévision connectée. Et d'ailleurs, a priori aussi, tous les objets connectés à partir du moment où il y a un lien avec Internet, un lien avec les câbles. Pour les opposants, c'est vraiment Big Brother. On est dans 1984 de George Orwell. La totalité peut être collectée et surtout gardée pendant très longtemps, 3 ans. C'est 2 ans et demi de plus qu'au Royaume-Uni, 2 ans et demi de plus qu'en Allemagne. C'est vraiment extrêmement long et c'est très très large.
Alors, pour assurer les électeurs, c'est assez curieux, le chef de l'agence de renseignement actuelle, donc néerlandaise, utilise cet argument. Pensez à ce que Facebook, Google, Twitter ou Tinder savent de vous et demandez-vous si cela vous inquiète. Donc, ça ne devrait pas vous inquiéter, sous-entendu, si c'est l'État néerlandais lui-même qui a tous ces renseignements. Alors, pour l'heure, le résultat est très incertain. C'est assez curieux aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a des sondages qui donnent le oui, donc majoritaire.
Oui, effectivement, on voit des sondages avec un oui à 60%. Les électeurs néerlandais sont prêts à renoncer à leur vie privée, sont prêts à renoncer à la protection de leurs données à partir du moment où c'est l'État. Ils font confiance à l'État, semble-t-il, 60% en faveur de cette loi. Il faut encore qu'il y ait 30% de participation au référendum pour que ce référendum ait une valeur, mais si les électeurs disent oui, eh bien la loi pourrait entrer en vigueur comme prévu le 1er mai. Ça devait être le 1er janvier, mais ça a été repoussé parce que la commission de contrôle n'était pas encore en place.
Alors, un tout petit mot encore, parce qu'il faut expliquer le contexte national et des Hollandais qui ont un rapport, disons, assez particulier à cette notion de sécurité.
Oui, effectivement, ce que les Néerlandais semblent avoir démontré au cours des décennies passées, et puis des siècles passés aussi, mais au cours des dernières décennies surtout, la mise en place de projets comme la légalisation des drogues douces, la légalisation de l'euthanasie, de la prostitution, montre bien non pas une sorte d'ouverture incroyable par rapport aux pays voisins, mais surtout la facilité, la faculté de contrôle. Les Néerlandais aiment bien l'idée de savoir tout ce qui se passe chez eux, de savoir ce que tout le monde fait, et si c'est public, si c'est autorisé. Eh bien à ce moment-là, on peut le contrôler. C'est fait en plein jour et on peut avoir une idée très précise de ce que fait chacun. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les Néerlandais vivent traditionnellement avec des fenêtres qui n'ont pas de rideaux pour que tout le monde puisse voir, même si officiellement on ne regarde pas chez les autres.
Pierre Benazé, merci beaucoup. Vous étiez donc avec nous en direct de Bruxelles. Résultat de cette consultation, donc sans doute dans la soirée. Autre question qui agite l'Europe, plus technique, celle-là, comment taxer les géants américains du numérique? La question est évoquée, sera évoquée demain lors d'un Conseil européen. Tribune hier du ministre français de l'économie Bruno Le Maire, du commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici, qui déclarait qu'il n'était plus tolérable que ces entreprises ne paient qu'un montant dérisoire d'impôts sur les sociétés en Europe. Et en ce moment même, donc, M. Moscovici détaille la réforme proposée par la Commission. Dans un premier temps, l'exécutif européen préconise de taxer à 3% les revenus donc, et non les profits comme le veut l'usage, les revenus qui sont générés par l'exploitation de ces activités numériques. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Quelques explications. D'abord, quel est l'objectif de la Commission?
Eh bien, c'est de parvenir à imposer les bénéfices réalisés en Europe par les grandes entreprises du numérique, car grâce à des pratiques de contournement fiscal assez agressives, elles payent aujourd'hui en moyenne 2 fois moins d'impôts que les entreprises, disons, traditionnelles. Alors concrètement, la Commission européenne fait 2 propositions législatives. La première, c'est une nouvelle taxe. L'idée, c'est de ne plus appliquer à ces entreprises une taxation sur les bénéfices, car la plupart du temps, elles les rapatrient dans des pays fiscalement favorables, mais d'instaurer une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé. Elle serait due partout où s'exerce l'activité, voilà, qui pourrait générer 5 milliards de recettes par an, car cette taxe permettrait d'atteindre des activités qui actuellement échappent complètement au cadre fiscal. La Commission vise des revenus qui reposent sur l'exploitation des données des utilisateurs, c'est le modèle des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, et des moteurs de recherche type Google, ainsi que les revenus générés par la mise en relation pour un service donné. Là, ce sont toutes les plateformes comme Airbnb, Uber, etc. En revanche, ne seraient pas concernées les entreprises dont le modèle économique repose sur les abonnements type Netflix. Alors, cette taxe est présentée comme une solution provisoire en attendant une réforme plus structurelle de la fiscalité. C'est l'autre proposition de la Commission, adapter au monde numérique les règles de l'Union sur l'imposition des sociétés. Comment? Eh bien, en permettant aux États membres de taxer les bénéfices réalisés sur leur territoire, même si l'entreprise n'y est pas physiquement présente. La Commission européenne propose d'introduire la notion de présence numérique significative. Elle serait établie selon le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs d'un service ou le nombre de contrats passés.
Alors, demain, Conseil européen. En matière fiscale, on sait en Europe, il faut l'unanimité pour adopter donc éventuellement ce projet. Est-ce que ça a une chance d'être adopté? On sait qu'il y a encore 28 membres dans l'Union.
Oui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est rien de le dire. Politiquement, le projet est soutenu par la France et un certain nombre d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Mais il reste un groupe de pays réfractaires, les pays scandinaves qui préféreraient une solution internationale au niveau du G20, mais surtout des pays comme l'Irlande, le Luxembourg qui ont attiré les sièges européens de plusieurs grandes entreprises du numérique comme Facebook ou Amazon avec une fiscalité très avantageuse. Les discussions politiques sur ces propositions commenceront donc demain lors du Conseil européen qui débute à Bruxelles.
Voilà, et qu'on suivra donc demain naturellement. Merci beaucoup Catherine Pétillon. C'est un fait relativement rare. L'État d'Israël choisit de communiquer sur une opération militaire contre un pays étranger. Les Israéliens reconnaissent en effet avoir lancé un raid aérien contre un réacteur nucléaire en Syrie. C'était en 2007. C'est une annonce donc rare, interprétée comme un avertissement adressé à l'Iran. On est en ligne avec Marie Semelin. Bonjour.
Bonjour.
On savait donc évidemment dès le début qu'Israël était derrière cette attaque contre le site d'Al-Kibar dans la province syrienne de Deir ez-Zor. C'était dans la nuit du 5 au 6 septembre 2007, mais jusqu'à présent donc la censure militaire empêchait la divulgation d'informations sur cette opération. Il y a maintenant des preuves, des vidéos même. Est-ce qu'il faut peut-être que vous nous rappeliez d'abord en quoi consistait cette opération ?
Oui, effectivement. Alors d'abord, c'était il y a 11 ans, vous l'avez dit, en septembre 2007, avant la guerre en Syrie, un raid aérien détruit ce que l'armée identifie comme un réacteur nucléaire et qui est censé fabriquer du plutonium. Il est situé dans la province de Deir ez-Zor, à plus de 400 km de Damas, et pour Israël, il était à quelques semaines d'un état opérationnel. La Syrie, elle, a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un site militaire de faible importance, mais il y a quelques années, en 2011, l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé très probable que ce site était effectivement nucléaire, évoquant aussi la possibilité d'une aide de la Corée du Nord pour sa construction. Et pour beaucoup d'experts, si Israël à l'époque n'avait pas revendiqué cette frappe, eh bien, c'était pour ne pas humilier publiquement le régime syrien et donc éviter une confrontation armée.
Alors cette reconnaissance vise donc, on l'a dit, à avertir l'Iran contre le renforcement de sa présence militaire en Syrie. Est-ce qu'il y a des signes aujourd'hui que ce renforcement puisse éventuellement déboucher sur une menace d'ordre nucléaire ?
Alors c'est en tout cas ce que craint Israël, et la confirmation d'aujourd'hui a valeur d'avertissement. Pour le ministre du renseignement Israël Katz, l'État hébreu a montré, je cite, qu'il ne laisserait pas l'arme nucléaire tomber dans les mains de ceux qui menacent son existence, et de préciser la Syrie d'hier, l'Iran d'aujourd'hui. Le pays dit et répète son inquiétude de voir l'Iran étendre son influence dans la Syrie voisine. Israël y mène d'ailleurs régulièrement des frappes contre notamment le Hezbollah libanais, allié de Téhéran, et le mois dernier également un sérieux accrochage a opposé les deux pays. L'État hébreu avait affirmé avoir abattu un drone iranien survolant son sol, mais il avait perdu dans la foulée un avion de combat, un F-16, touché par des tirs syriens, un vrai choc pour le pays, qui aujourd'hui renvoie néanmoins un message clair. Israël n'hésitera pas à joindre le geste à la parole pour défendre ses intérêts. Et sur le plan diplomatique, eh bien ici on attend avec impatience de savoir ce que va faire Donald Trump concernant l'accord sur le nucléaire iranien, auquel l'État hébreu s'oppose fermement. Le président américain menace de s'en retirer.
Marie Semelin, merci beaucoup, en direct de Jérusalem. Au moins 26 personnes tuées lorsqu'un kamikaze a explosé devant l'université de Kaboul, où les Afghans fêtaient aujourd'hui donc le nouvel an perse. Il y a au moins 26 personnes qui ont été tuées dans cette attaque. Midi 43, l'actualité en France. Ce sera donc demain le premier mouvement de grève d'un printemps qui s'annonce sans doute agité. Il y a le pouvoir d'achat, les statuts, les salaires. En tout cas, les agents publics, les cheminots, les salariés d'Air France sont appelés par les syndicats à se mobiliser demain. Demain ou après-demain d'ailleurs, aux côtés de la RATP et des personnels des EHPAD. Il devrait y avoir notamment des perturbations dans les transports. On va en parler. Bonjour Bénédicte Robin.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Comment se présente cette journée de demain ?
D'abord comme une journée où il faudra de la patience dans les halls de gare. Les cheminots sont appelés à manifester contre la réforme du rail. D'après la SNCF, il n'y aura qu'un TGV sur quatre, un quart des intercités, seulement la moitié des TER. À Paris, les agents de la RATP les soutiennent. Il y aura donc aussi des perturbations dans les métros, bus, tramways, RER, mais de moindre ampleur d'après la direction. Dans le ciel aussi, ce sera perturbé. Les contrôleurs aériens, qui sont des fonctionnaires, sont appelés à la grève. La Direction générale de l'aviation civile prévoit l'annulation de près d'un tiers des vols à Roissy, Orly et Beauvais. Et puis c'est évidemment et avant tout la journée noire de la fonction publique. Écoles, cantines, crèches, administrations, tribunaux, hôpitaux, maisons de retraite publiques, tous ces services seront au ralenti, voire fermés. 140 manifestations sont prévues partout en France pour dénoncer les suppressions de postes, les recours aux contractuels, le gel du point d'indice, des revendications globales auxquelles s'ajoutent les inquiétudes particulières de chaque secteur. Les organisations étudiantes et lycéennes les rejoignent contre la réforme du bac et de l'entrée à l'université.
Alors c'est un peu un coup d'envoi pour cette période test du printemps, test pour la volonté réformatrice du gouvernement, mais aussi bien sûr pour la capacité de ses opposants à infléchir cette politique.
Et 50 ans, jour pour jour, après le mouvement étudiant du 22 mars 1968, considéré comme l'étincelle, les prémices de mai 68, il y a évidemment une dimension symbolique forte du côté des protestants. protestataires qui, jusqu'à présent, avaient chacun eu leur journée de mobilisation et qui, cette fois-ci, seraient tous ensemble. C'est aussi le coup d'envoi du mouvement dur prévu par les cheminots, leurs 36 jours de grève par intermittence sur 3 mois à partir du mois d'avril. Côté gouvernement, on affiche une certaine sérénité, de la détermination. Nous tiendrons, a déjà prévenu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et c'est vrai que jusqu'à présent, rien n'a vraiment freiné la marche en avant du gouvernement. Les ordonnances réformant le Code du travail n'ont pas déclenché l'incendie escompté cet automne. Difficile de dire donc si le printemps sera, disons, plus ardent.
Merci Bénédicte. Robin, la garde à vue de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a repris ce matin dans l'enquête sur les soupçons de financement par la Libye de Mouammar Kadhafi de sa campagne présidentielle de 2007 à l'issue de cette garde à vue. Susceptible de durer 48 heures, donc jusqu'à ce soir, il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou encore convoqué ultérieurement. Le Conseil des ministres ce matin avec ce projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Il doit permettre notamment de sanctionner un nouveau fait, une amende pour harcèlement dans la rue, et puis aussi il fixe à 15 ans l'âge de consentement sexuel. Eva Djenak.
Oui, en dessous de 15 ans, un enfant est considéré comme trop immature pour consentir à une relation sexuelle avec un adulte dans ce projet de loi. Cette mesure découle de deux faits divers. L'an dernier, deux fillettes de 11 ans sont jugées consentantes après avoir eu un rapport avec des hommes adultes, des décisions qui provoquent un tollé dans l'opinion publique. La priorité ici était donc de fixer un interdit net pour renforcer la protection des mineurs. Le texte s'attaque aussi au harcèlement sexuel, d'abord en renforçant son contrôle sur Internet, puis c'est l'une des mesures les plus discutées depuis l'élaboration de la loi en condamnant le harcèlement de rue. Ce sont ces violences sexistes subies par les femmes dans les lieux publics, de la drague insistante à l'agression sexuelle. Et pour punir ces comportements, une nouvelle infraction est créée, celle d'outrage sexiste. Elle sera sanctionnée d'une amende de 90 à 750 euros.
C'est un texte qui suscite des critiques de la part de certains élus, des associations aussi, qui estiment que le gouvernement ne prend pas finalement l'ampleur de ces violences auxquelles les femmes sont confrontées.
Oui, certaines associations féministes parlent de réponses parcellaires au problème. Sanctionner le harcèlement de rue est un premier pas, mais c'est loin d'être suffisant. Elles rappellent que dans la majorité des cas, les violences sexuelles ont lieu dans le privé. Selon les chiffres publiés par le gouvernement l'an dernier, 9 femmes sur 10 victimes de viols ou de tentatives de viol connaissent leur agresseur. Il s'agit même dans près de la moitié des cas de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Les associations de défense des droits des femmes s'inquiètent de l'absence de mesures prises à ce sujet dans la loi et elles réclament plus de moyens. Depuis plusieurs mois et la libération de la parole des femmes, elles sont débordées par le nombre d'appels reçus. L'association du collectif féministe contre le viol, par exemple, a relevé une augmentation des appels de 20% pour les mois d'octobre et novembre. Elle s'est joint à un appel aux dons lancé par la Fondation des Femmes il y a un mois, sous le mot-clé « Maintenant, on agit ».
Eva Djenak, merci beaucoup. On salue l'invité de la séquence interview, Marie-France Etchegoin. Bonjour.
Bonjour.
Notre consoeur va parler avec vous de francophonie. Un petit mot quand même sur le sujet. Évidemment, il faudrait aller jusque dans la sphère privée parce qu'effectivement, la plupart des agressions ou des viols même ont lieu dans l'univers familial où la personne connaît son agresseur. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de souhaitable? Et c'est aussi très délicat.
Évidemment. La question, c'est les moyens. Comment aller dans la sphère privée et je pense que là, c'est un premier pas. Et encore une fois, là aussi, c'est la question des moyens. Comment on va former les policiers, les gendarmes pour recueillir des plaintes sur le harcèlement de rue ou l'outrage sexiste? Et là, on verra aussi à l'usage sur le plan juridique ce que va donner cette notion d'outrage sexiste.
Ça va être assez difficile peut-être quand même.
Donc
à
tout ça est quand même. Tout ça est intéressant. Il faut que ça se mette en œuvre. Et ce qui me frappe d'ailleurs, j'ai vu passer un sondage disant que 9 Français sur 10 étaient favorables à cette loi. Je trouve ça intéressant. Voilà.
Merci beaucoup. On parle donc de la raison pour laquelle vous êtes dans ce studio, c'est-à-dire la francophonie. Et votre livre, c'est Anne Fauquemberg qui vous pose donc des questions autour de cette problématique.
Bonjour Marie-France Etchegoin, écrivain, journaliste indépendante. Vous êtes l'auteur donc de ce livre, J'apprends le français aux éditions La Thèse. C'est le récit des cours de français que vous donnez bénévolement à des demandeurs d'asile dans un centre d'hébergement d'urgence depuis 2 ans environ dans le nord-est parisien, là où vous vivez. Vous avez été sensible au discours d'Emmanuel Macron hier après-midi. Il a eu un mot pour les demandeurs d'asile.
Oui, il a annoncé que le nombre de cours de français serait doublé, enfin, on passerait de 250 à 600 pour les demandeurs d'asile, ce qui est une bonne chose. En même temps, la loi qu'il porte et qui sera bientôt présentée au Parlement, votée au Parlement, est une des lois les plus répressives, on va dire, par rapport aux demandeurs d'asile.
Le projet de loi asile et immigration.
Et surtout, alors ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les demandeurs d'asile ne peuvent bénéficier de cours donnés par les pouvoirs publics qu'à partir du moment où ils ont leur papier et un titre de séjour en France. Or, le délai d'examen va de 1 an, parfois 2 ans. Et donc, pendant ce délai-là, c'est un gâchis, une perte de temps incroyable. Et les demandeurs d'asile, en fait, apprennent le français avec des associations, des bénévoles, dont je suis, mais je ne suis pas la seule. Il y a, comme ça en France, une espèce de réseau souterrain, un peu anonyme, qui partage la langue avec des demandeurs d'asile.
Alors la francophonie décrite aussi hier par le chef de l'État comme un archipel, j'imagine que ça vous parle à travers les liens que vous tissez avec vos élèves d'un jour, d'une semaine. On découvre que la grammaire, la syntaxe sont des radeaux pour nombreux d'entre eux. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un mot de ce jeune érythréen Salomon, de la façon dont il s'appuie sur la langue française pour respirer?
Oui, dans ce livre, j'ai aussi voulu rendre hommage à tous ces demandeurs d'asile qui s'accrochent à la langue comme à une bouée. En fait, ils habitent une langue avant d'habiter un pays. Ils veulent rester en France, évidemment, mais ils ne sont pas sûrs d'y rester. Mais déjà, ils habitent la langue.
Comment ça se manifeste, finalement, cette volonté d'habitation, de saisir la langue?
Eh bien, ça se manifeste par... Ce sont des jeunes, pour la plupart, des jeunes hommes qui ont des parcours terribles derrière eux. Parfois, ils ont mis 1 an pour arriver jusqu'en France à pied. Ils ont été dans des prisons libyennes. Ils ont été torturés, kidnappés. Ils ont vécu pendant deux, trois mois.
Et vous voulez dire que la grammaire française les intéresse?
Et ils viennent dans ces cours. Souvent même, certains, j'apprends, ont leur famille qui vient d'être massacrée au Soudan, où il y a une guerre civile atroce qui n'est pas finie, ou en Afghanistan, où, vous l'avez encore dit, il y a eu des attentats. Et ils continuent à venir et à apprendre. Et le cas de ce jeune érythréen, Salomon, donc qui lui est parti pour fuir le service militaire à vie qui a été institué par un président totalement paranoïaque. C'est l'Érythrée, ça n'a rien à envier à la Corée du Nord. Donc il s'enfuit, là aussi, périple incroyable pour arriver jusqu'en France. Et lui, il est complètement obsédé, ça m'amuse beaucoup. Parce que dans mon livre, je crois qu'il y a du drame, mais il y a aussi beaucoup de joie. Hein. Il y a de l'humour, ils ont énormément d'humour. Il s'accroche aux conjonctions de coordination. J'ai remarqué qu'il était complètement obsédé par « car »,« puisque »,« parce que », etc. Et petit à petit, à travers ça, il me raconte son histoire.
Mais vous comprenez pourquoi ? Il veut trouver un sens, une logique.
C'est comme s'il mettait de l'ordre dans le chaos de sa vie, dans son chaos intérieur. Parce qu'une langue, c'est pas uniquement un moyen de communication. C'est pas juste de pouvoir demander son chemin. Une langue, c'est ce qui vous fonde aussi intérieurement. C'est ce qui vous solidifie de l'intérieur. Et eux, ils arrivent, ils se sont arrachés à tout, et ils viennent en plus de pays où ils n'ont jamais entendu un mot de français. C'est pour ça que la francophonie, pourquoi pas, on peut appeler ça la francophonie. Oui, moi je suis ravie de penser que des jeunes qui viennent d'Érythrée ou d'Afghanistan seront demain les porte-parole, parmi les porte-parole de la francophonie. Mais cette langue, ils ne l'ont jamais entendue. Ils ne viennent pas d'anciens pays colonisés. Pour eux, c'est une langue d'extraterrestre. C'est extrêmement difficile de l'apprendre pour eux.
Alors, vous parlez de récits initiatiques pour ce livre. En quoi cette expérience d'enseignante bénévole auprès de ces demandeurs d'asile, elle a été initiatique? Parce que vous ne découvrez pas le monde. Marie-France Etchegoin, grand reporter, des enquêtes de société qui ont été marquantes. C'est quoi la différence finalement sur le plan personnel?
D'abord, quand j'ai été donner des cours là-bas, je voulais... Enfin, il n'était pas question que j'écrive, justement. Je voulais sortir de ma zone de confort, en fait, de ce que je fais habituellement. Et c'est vrai que des situations dramatiques, j'en ai vu dans mon métier, etc. Mais là, c'était totalement différent. Et en fait, j'ai été tellement déstabilisée, bouleversée et passionnée par cette expérience que j'ai eu envie de la partager. J'ai eu envie de raconter les parcours des gens que j'ai rencontrés. J'ai eu envie de leur rendre hommage et de rendre hommage aussi à tous ceux qui font la même chose que moi. Bon. Et montrer que cette France aussi existe. Donc c'est un récit initiatique, je l'ai appelé « J'apprends le français », parce que c'est évidemment « j'apprends », même si je ne suis absolument pas un prof, voilà, je n'ai pas de formation d'enseignante. Et eux m'apprennent. Ils m'apprennent sur eux, ils m'apprennent sur le monde, ils m'apprennent sur moi, ils m'apprennent sur l'échange, sur la parole.
Et sur la force du français.
Et sur l'humanité aussi, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde, en fait, où on est toujours en train de chercher ce qui fait la différence entre les gens. Et là, c'est ce qui nous rapproche tous. Moi, comme eux qui viennent de très très loin et qui ont une culture et une vie très différentes, mais qui parfois me font penser à mes propres enfants.
Et qu'est-ce que vous avez appris sur le français
question, rapidement.
Sur votre
français,
langue
bah, ça permet de redécouvrir des mots qui sont souvent galvaudés, qui sont quand ils sont prononcés par des demandeurs d'asile qui viennent de pays en guerre ou leur pays et leurs enfants ont été tués par exemple, bah, le mot enfant ou le mot liberté, le mot guerre, eh bien tout ça, voilà, ça c'est aussi, je dis dans mon livre que souvent, évidemment, j'adore la langue française, je soutiens tous ceux qui se battent pour son rayonnement. Mais mon Dieu, que cette langue est difficile. Qu'est-ce qu'elle est difficile? Elle est pleine de pièges, etc. Et en même temps, c'est vrai que c'est une langue magnifique. Et je trouve qu'ils ont un courage extraordinaire de s'y accrocher.
Voilà, on va entendre un peu d'anglais dans la dernière partie, mais ça sera traduit en français. Merci beaucoup,
Marie-Françoise
Chegouin. Je rappelle le titre de votre livre, J'apprends le français chez Lattès. Un petit mot encore pour vous dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare recevable 6 candidatures à la présidence de Radio France, dont celle de la directrice générale déléguée du groupe public, Sybille Veil. Les 5 autres candidats retenus sont Jérôme Batou, qui est directeur général de Publicis Média, expert en communication, Bruno Delport, directeur de la radio TSF Jazz, François Desnoyers, qui fut un ancien directeur des antennes à Radio France, Guillaume Clossat, président fondateur du centre de réflexion Europa Nova, et Christophe Tardieu, directeur général du Centre National du Cinéma. Un temps plus calme, encore froid, température 3 à 13 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal des 8h, Aurélie Kiffer.